Ah ouais.
Bienvenue à Scal 16, 17 à Fulgence Blanc au micro. Voilà, c'est une belle journée de mercredi aujourd'hui encore. Et je vais parler de prix Nobel de physique, prix Nobel de chimie. J'avais commencé l'année déjà avec le prix Nobel de médecine. Ça, c'est la semaine de prix Nobel. Donc, on ne peut pas passer à côté, ça c'est sûr. Et puis, bon, il y a un autre sujet qui m'interpelle beaucoup. C'est l'Europe qui adopte le chargeur universel pour les appareils électroniques portables. Je souhaite un prompt rétablissement à notre chroniqueuse voyage, la globetrotteuse Maud Carrier. Voilà, qui a piqué un rhume. Je lui envoie une belle dose d'énergie positive pour qu'elle se retape afin qu'on puisse être de nouveau informé, nous transporter quelque part à l'intérieur du Québec la semaine prochaine. Allez, Maud, prends soin de toi. Voilà, au plaisir de te réentendre ici la semaine prochaine avec toute l'énergie qu'on t'envoie. Voilà, toute l'équipe de Escale 16-17 t'envoie cette énergie-là pour que tu te retapes rapidement. Voilà. Et avant d'aborder les prix Nobel de physique et de chimie et autres, je vais parler rapidement de cette histoire de chargeur universel. Les gens sont divisés. Comment ils vont faire? Comment ils vont s'arranger? Alors, non. Ils ont très bien étudié la situation pour dire que à partir de 2024, ça va être clair. Ça va être clair. Le chargeur universel deviendra réalité à partir de 2024 ou 2026 pour les ordinateurs portables et autres en Europe. Je pense bien que nos décideurs ici, c'est-à-dire les politiques, vont prendre aussi la décision, essayer d'emboîter le pas à l'Union européenne, même pas seulement l'Union européenne, c'est toute l'Europe, si je ne me trompe pas, mais c'est le Parlement européen qui demande ça à ses fabricants. Ils sont fatigués, les consommateurs sont fatigués de toujours aller faire le tri dans le petit tiroir de milliers de câbles. Même si je ne vis pas en Europe, hein, Mathieu, et quand même, oui, quelquefois, un câble universel, ça fait du mal à personne. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, je t'écoute, tu peux ouvrir ton micro. Hein.
Non, je sais que maintenant, il y a des appareils qu'on peut charger sans câble, simplement en ça, déposant
c'est pas,
les...
Oui, c'est pas encore...
Mais c'est vers ça qu'on devrait travailler aussi, parce que il n'y aurait plus de problème de câble, ouais, du tout.
Il faut prendre... C'est pas à pas, c'est une journée à la fois. Faut pas demander le beurre et l'argent du beurre en même temps. Voilà.
On n'est pas à une décision près. C'est quand même pas quelque chose qui est irréalisable. Si une certaine compagnie est capable de le faire, pourquoi tout le monde ne pourrait pas adopter cette technologie-là?
C'est là où je veux en venir. Ils sont capables. Mais je sais, mais la compagnie visée, elle se reconnaît elle-même dans cette décision.
On la nommera pas, mais
Elle se reconnaît. Alors, le Parlement européen a adopté la directive imposant le chargeur à port USB-C comme standard pour tous les appareils électroniques portables commercialisés en Europe, selon les produits, bien sûr. Donc, c'est ce standard USB-C qui va s'imposer en Europe à partir de 2004 pour tous les appareils électroniques. Alors, qu'est-ce que dit l'eurodéputé maltais Alex Agius Saliba, rapporteur du projet de législation sur le chargeur universel, dit « Aujourd'hui était grand jour pour les consommateurs européens ». On l'a dit, bravo, j'espère que nos décideurs ici, comme je le disais en début d'émission, vont suivre les pas du Parlement européen pour essayer d'imposer ça aussi à ces différents fabricants qui nous... Voilà. Et puis, qui nous programment des câbles qui... 1, 2, 3, c'est fini, tu ne peux plus l'utiliser, il ne charge plus. Et à un moment donné, il faut passer par là pour qu'on arrive à... Dans les décennies à venir aussi, au chargement sans fil. Voilà. On verra bien ce que ça va donner, quoi. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des régions du monde qui n'ont pas encore d'Internet proprement dite. Le réseau sans fil n'est pas partout sur cette planète. Donc, il faut aller pas à pas, une journée à la fois, une chose à la fois. On verra bien ce que ça va donner.
Allez jouer dehors. Oh là là. C'est ce qu'il faut.
Mathieu.
Non, allons jouer dehors.
Oui, quand il fait beau.
Je disais pas aux gens d'aller jouer dehors.
Mais ici, quand il fait beau, oui, je veux dire. Donc, plus jamais, Mathieu, plus jamais de chargeurs différents dans nos tiroirs. Moi, j'en ai plein chez moi, là. Ouais, la commissaire européenne à la concurrence se réjouit de l'accord scellé mardi. Voilà, c'est depuis le mois déjà, j'en avais parlé ici d'ailleurs, je jubilais, pourtant je ne vis pas en Europe. Margrethe Vestager, ouais, c'est la commissaire européenne à la concurrence. Oui, ça c'est tout est fait maintenant. Donc, à cette échéance, à l'année 2024, le port USB de type C deviendra le port de recharge commun dans les 27 pays de l'Union européenne. Donc, les pays non membres de l'Union européenne, voilà, de toutes les façons, ils sont souvent des marchandises qui viennent des pays de l'Union européenne, donc ils n'auront pas le choix de s'adapter. Voilà, ça c'est clair. Ça deviendra le port de recharge commun. Dans ces pays-là, le Parlement européen a salué cet accord qui bénéficie aux consommateurs et limite les déchets électroniques. C'est là, c'est le but. C'est le but. C'est pour que... On parle d'environnement, de déchets électroniques, tout ça, ça fait partie de ces choses-là. Donc, on aura bien l'opportunité de revenir ici de temps en temps. Le standard de type C doit être égal, d'une puissance inférieure ou égale à 100 watts commercialisés dans l'Union européenne. Les normes sont fixées, hein. Donc, les fabricants vont être contraints de se mettre, voilà, de s'affilier à ces normes-là, sinon ça ne marche pas, quoi. Et ils ont tout le temps de refabriquer les choses et on pense bien que tout cela va permettre aux gens de simplifier la vie aux fabricants, de simplifier la vie des consommateurs européens en leur faisant économiser un total allant jusqu'à 250 millions d'euros par année. 250 millions. Oui, c'est du... Ouais, c'est du business. Voilà, ça, c'est clair. Donc, Alex Aguis Saliba qui dit « Nous voulons réduire également l'impact sur l'environnement puisque les chargeurs généraient 11 000 tonnes de déchets électroniques par année aussi. Nous allons aider les consommateurs à faire le bon choix en invitant les constructeurs à donner toutes les informations nécessaires sur l'emballage de leurs produits. L'enjeu est aussi de changer les habitudes d'achat pour les rendre plus vertueuses envers l'environnement. » Voilà, c'est ça. Et puis le rapport est convaincu que l'obligation de charger universelle a toutes les chances de s'imposer à l'échelle planétaire. Oh ouais, ça c'est... Nous voyons mal les constructeurs continuer à vendre des produits à chargeurs propriétaires. Chargeurs propriétaires, c'est les chargeurs qui sont uniquement pour chaque fabricant. C'est ça, les chargeurs individuels, on peut les appeler aussi comme ça, propriétaires, en dehors de l'Union européenne. Donc ça va... Reste la question des systèmes de rechange sans fil qui va s'ajouter. Ils vont en discuter plus tard. Ça pourra aider les consommateurs des 27 pays de l'Union européenne d'en profiter. Bravo au Parlement européen pour eux. Alors, j'avais lundi déjà parlé du prix Nobel de médecine. Hier, mardi, c'était le prix Nobel de physique. Et aujourd'hui, mercredi, c'est le prix Nobel de chimie. Qui a gagné? Ça va jusqu'au lundi, jusqu'au 10 octobre. Ça va se terminer par le prix Nobel d'économie. Alors, puisque hier j'avais deux chroniques, je ne pouvais pas aller par là. Donc je me suis dit, bon, je vais en parler aujourd'hui. Prix Nobel de physique, ça c'était hier. Les faits. Ça a été décerné au Français Alain Aspect, à l'Américain John F. Closer et à l'Autrichien Anton Zeilinger pour leurs expériences sur l'intrication quantique. L'intrication quantique. Deuxième épisode du millésime 2022, le prix Nobel de physique a distingué hier mardi là, ces trois personnes dont je viens de citer pour leurs expériences sur l'intrication quantique, une propriété étrange des particules à l'échelle de l'infiniment petit. L'infiniment petit. Oui. On va parler des nanos, là, je ne sais quoi. Donc, l'intrigation quantique veut, à gros traits, que deux particules distinctes, comme des photons, représentent un état interdépendant. C'est une propriété de particules de la mécanique quantique qui fait qu'on ne peut pas attribuer des propriétés individuelles à chaque particule. Voilà, ça c'est la précision de Philippe Granger, qui est physicien au laboratoire Charles Fabry. Bon, de là, on découle aussi la nécessité d'écrire globalement les particules quantiques. C'est une histoire de particules et de pulls aussi. C'est un peu comme si chaque jour, vous preniez une pull au hasard, mais systématiquement, celui-ci est noir. Votre collègue de bureau met un pull blanc et vice-versa. Ça, c'est un peu c'est une manière d'expliquer terre à terre pour que nous puissions comprendre nos autres, là. Ils ne sont pas... Nous, monsieur, madame, tout le monde, nous ne sommes pas, ni qui ne sommes pas dans ce milieu-là. Alors, on ne choisit pas la couleur de votre pull et vous ne vous téléphonez pas pour vous coordonner. Il n'y a pas de calendrier établi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de quantique et autres, là? Moi, personnellement, Pendant longtemps, d'ailleurs, les scientifiques se sont demandé s'il n'y avait pas les propriétés cachées qui permettraient d'expliquer cela. Peut-être oui, mais l'exemple que je viens de donner, que je viens de citer concernant le pull blanc et le pull noir et autres, votre collègue là, il vous guette à la sortie de chez vous et s'habille en conséquence. Tu vois, pour essayer d'avoir. Donc, il n'y a aucun aspect presque mystique à cette propriété. Bon. Pour nous, c'est mystique, mais eux, les scientifiques qui sont dans ce domaine depuis des décennies, voilà, c'est leur vie, ils ne font que faire ça, ces gens de recherche dans leur laboratoire. Donc, les travaux de ces trois hommes ont éclairé les implications gigantesques de l'intrication quantique, ont reconnu les pères scientifiques qui ont ouvert la voie à l'informatique quantique aussi, et puis à la cryptographie quantique. Ça, c'est... Mais c'est quoi, au fait, cette histoire de quantisme, quantique? À quoi sert la physique quantique? Voilà, ça sert à quoi? On l'utilise tout le temps, tous les jours, sans le savoir. Oui. Le français Alain, l'un des lauréats, a été récompensé, bien sûr, de ce prix Nobel de physique, et pour ses travaux de la mécanique quantique. C'est une branche de la physique sous laquelle de nombreuses inventions utilisées au quotidien n'auraient pas pu voir le jour depuis la communication jusqu'aux sources d'énergie. Voilà, donc l'idée du comportement des particules a permis de développer de nombreuses technologies utilisées au quotidien. Ah oui, vous allez être surpris quand je vais vous parler de la liste de ce qu'on utilise au quotidien. D'abord, on commence par les centrales nucléaires. Donc, l'étude du comportement des atomes, développée à partir du début du XXe siècle, aboutit à de nombreuses innovations avec une implication directe dans le quotidien de millions de gens. C'est une physique aussi qui a aussi débouché sur l'invention des centrales nucléaires. Et puis, les GPS que nous utilisons tous les jours. Ah ouais, c'est ça. Lancé en 1978, le Global Positioning System, GPS. C'est ça, c'est un système utilisé en permanence par une grande partie de la population mondiale. Géolocalisation des téléphones, système de navigation dans les voitures, matériel militaire, des applications hétéroclites qui reposent toutes sur la mécanique quantique. Le GPS fonctionne en effet grâce à des horloges atomiques, oui, embarquées dans les satellites placés en orbite autour de la Terre, contrairement à l'horloge pendule qu'on a dans nos salons, dans les bureaux, dont l'oscillation est assurée par le mouvement du pendule et dépend de nombreuses variables. Donc, la précision de l'horloge atomique dépend du fait que des atomes émis par du césium vibrent à fréquence constante. Et puis, il y a le laser. Ouais, des choses qu'on connaît, qu'on utilise tous les jours. Les imprimantes laser, les instruments de laser qu'on utilise chez les dentistes ou bien chez les ophtalmologues, tout ça, vous faites des opérations. Le laser naît dans les années 60. On n'était pas encore né, hein, Mathieu?
Oh non!
Oh non. Le laser est utilisé aussi à des fins très variées. Informatique, imagerie médicale, industrie, cinéma ou encore opérations chirurgicales. Voilà. Donc, le laser utilise les propriétés quantiques des atomes. Donc, la lumière. Le laser est ainsi constitué de photons identiques et parfaitement superposés qui produisent une couleur unique. Et puis les ordinateurs et les communications, c'est-à-dire les smartphones, oui, qu'on utilise tous les jours, tu vois. C'est ça, c'est aussi sont régis par les lois de la physique quantique, sinon on ne pouvait pas les avoir. Aucune des puces et des semi-conducteurs qui les composent, de la mémoire, des téléphones à leur carte graphique, en passant par la gestion du son, la réception et l'amplification des signaux, ne fonctionnerait sans la découverte de la mécanique quantique. Ah, c'est très profond, il faut le savoir. Et le processus d'ailleurs de miniaturisation là, des outils de télécommunication renforce encore son rôle. Et puis, ça touche les tendances climatiques aussi, hein. Anticipation. Voilà, ça c'est beau. Cette branche de la physique quantique, ce qui aide aussi à participer, à anticiper les phénomènes climatiques extrêmes. C'est beau, hein? Les capteurs quantiques sont ainsi suffisamment sensibles pour mesurer les différences variables, oui, environnementales, et les traduire en prévisions susceptibles de donner des informations sur d'éventuels tremblements de terre ou des éruptions de volcans. C'est beau, non? Voilà. Le volcan, j'aime les voir. Les volcans, j'aime les voir là, dans les vidéos, à la télé, mais j'aime pas m'approcher d'un volcan. En tout cas, moi, personnellement, c'est pas ça. On fait une petite pause musicale, et puis je vais parler des gagnants du prix Nobel de chimie qui s'est passé aujourd'hui. On les a connus, on les connaît. Les Américains sont toujours dans le groupe, hein, ils sont cachés quelque part. Et cette fois-ci, il y a une dame qui est dans ce trio, là, si je ne me trompe pas. Allez, on va en musique avec Jonathan Roy.
How the hell did we wind up here? You're hitting rock bottom and I'm full of fear. The cold wind has frozen your heart. Let's rewrite this story and make it a long one. It's broken and falling apart. I won't let you lose who you are. And you're lost in this lonely light, trying to kill the pain you're feeling. Lost, but I'm here tonight, trying to chase away your demons. I scream it, I mean it, and I'ma stand by you till you find what you darkness in this space. You've come so far to have fallen from grace. The cold wind has frozen your heart. Let's rewrite this story and make it a long one. It's broken and falling apart. I won't let you lose who you are. And you're lost in this long the pain you're feeling. Lost, but I'm here tonight, trying to chase away your demons. I scream it, I mean it, and I'ma stand by you till you find what you lost. And I'ma stand by.
You lost, and I'ma stand. I'ma stand by you till you find what you lost.
Jonathan Roy, Lost. Voilà, avant d'attaquer le prix Nobel de chimie aujourd'hui, qui s'est passé aujourd'hui, n'oubliez pas, en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Marc Dulce qui va venir parler de son livre Journal d'un confiné, préface de Gilles Duceppe et de Caroline Quatch-Tan. Voilà, c'est tout nouveau, tout frais. Alors, je vais le recevoir à 16h30 pour parler de ce livre. C'est son. Ouais, il a écrit plus d'une dizaine de livres. Hein. Ancien journaliste, qui est devenu homme d'affaires, qui écrit aussi, qui a, durant cette pandémie, qui a tout observé, qui a rencontré des gens, comment les gens ont vécu ça. C'est une brique, hein. Ouais, il faut le. Ouais, une brique, plus de 400 pages, c'est beaucoup quand même. Il faut le lire, il faut le faire avant de l'inviter. Voilà, il va venir parler de ça à 16h30. Mais je vais parler maintenant, avant d'arriver là-bas, je vais parler maintenant du prix Nobel de chimie. Ouais, 2022. C'est le chimie, prix Nobel de chimie, prix Nobel de chimie. Voilà, je suis là. Il y a une nouvelle forme qui s'appelle maintenant la chimie clic. Voilà, le prix Nobel 2022 de chimie clic et astucieuse, mais surtout utile. La réponse, les réponses les plus simples sont parfois les meilleures. Cette phrase a été, elle seule pourrait d'ailleurs résumer l'esprit du prix Nobel de chimie décerné aujourd'hui. C'est toujours en Suède, à Stockholm. La récompense d'ailleurs les travaux de Caroline. Voilà, quand j'en parlais ici, là, en début de semaine, j'ai dit, il n'y a pas assez de femmes qui reçoivent ce prix-là. Comme je disais, voilà. Il y a une dame qui est là-dedans. Caroline Bertozzi, Université de Stanford aux États-Unis. Bravo. Bravo, Caroline. Madame Bertozzi, oui, on peut l'appeler comme ça. Et de Morten Mell, la Université de Copenhague, Danemark. Et de Barry Sharpless, Chips, Richard, États-Unis, qui ont offert au monde une solution élégante et efficace pour fabriquer de nouvelles molécules utiles. Faire de la chimie ne se limite pas seulement à observer la matière. Faire de la chimie, c'est aussi créer. C'est eux qui disent ça, voilà. Donner naissance à de nouveaux matériaux. Pour cela, les chercheurs ont, au fil des siècles, inventé des outils de plus en plus sophistiqués. Et puis, ces outils leur ont permis de fabriquer des molécules vraiment étonnantes. Mais non, sans peine. Car les processus sont longs et coûteux. Oui, ah oui. Il faut qu'il y ait des gens... avec beaucoup d'argent ou bien des organismes qui leur viennent en aide pour financer ces projets qui sont longs et coûteux. Alors, c'est ce que le prix Nobel de chimie 2022 a de très spécial. C'est, il récompense trois chercheurs qui ont su sortir des sentiers battus. Ce n'est pas les recherches habituelles que les autres ont fait et puis ont eu leur prix. Je ne dis pas qu'ils ont fait un mauvais travail, mais ces trois dont je viens de parler sont allés au-delà des sentiers battus pour pouvoir être récipiendaire de ce prix de chimie 2022. Voilà, c'est quelque chose de spécial. Ouais, c'est chimie clic et la chimie bio-orthogonale. La naissance de la chimie clic, c'est pour comprendre, il faut d'abord savoir que les chimistes envient depuis longtemps les solutions que la nature a trouvées pour créer du lien entre les atomes et les atomes de carbone. Donc, pour encourager ces atomes à se rapprocher, les chercheurs, eux, n'avaient jamais trouvé autre chose que l'activation artificielle. C'est ça, c'est un peu donc, c'est une activation à l'origine de nombreuses réactions secondaires indésirables. Et en 2001, Barry Sharpless, un des récipiendaires, qui se verrait quelques mois plus tard recevoir un premier prix Nobel de chimie, donc c'est son deuxième là. Je dis bravo à ce monsieur. Et puis la contribution de Mortel Meldal, qui pourrait quant à elle aussi être qualifiée de plus hasardeuse. Mais la grande dame dont je viens de parler, Caroline Melotti, là, je lui dis bravo, hein, parce que tous ces noms que je cite depuis lundi, il n'y a aucune dame là-dedans, il n'y a que des messieurs. Et je dis, il y a une minorité, voilà, je lui dis merci, elle a permis, elle est allée plus loin que ça. Elle a sa découverte qui a permis aux biologistes d'en apprendre plus sur les processus pathologiques. Et Caroline et son équipe ont ainsi découvert comment les glycanes protègent les tumeurs en fermant les cellules immunitaires. Ça, c'est important. Voilà. C'est ce qui fait qu'elle a gagné, qu'elle a été lauréate de ce prix 2022. De quoi imaginer un nouveau médicament contre le cancer qui cible les glycanes, un médicament en phase d'essai clinique déjà. Voilà. On verra bien quand les bonnes nouvelles vont tomber, je ne manquerai pas d'en parler ici pour dire bon, elle mérite ce prix Nobel de chimie 2022 avec les deux autres collègues qui sont des hommes. Voilà, je j'ai rien contre, mais il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes à qui on donne ce prix Nobel de chimie, de médecine, de physique, de littérature, de paix, d'économie. Pourquoi pas? Demain, c'est le prix Nobel de littérature. Demain, les amoureux de littérature sont en train de se bousculer là-bas. À Stockholm. Voilà. Aujourd'hui, le Léniste, c'était les amoureux de la médecine. Hier, c'était les amoureux de physique. Aujourd'hui, c'est les amoureux de chimie. Et demain, ça va être les amoureux de littérature. On connaîtra demain le prix Nobel de littérature. Voilà, ça c'est sûr. Comme on n'a pas les mêmes horaires avec le décalage, on le sait toujours un peu plus tard. À moins que tu lèves à 5 heures du matin pour suivre un peu. Parce qu'il est déjà midi là-bas, ils ont déjà commencé. Hein. Alors, on dit bravo à tous ces chercheurs qui viennent de se décrocher depuis lundi un prix Nobel de médecine, prix Nobel de physique et aujourd'hui, prix Nobel de chimie. Sur ce, restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vais recevoir mon invité Marc Dulceux qui va venir parler de son livre Journal d'un confiné. Voilà, ça concerne tout le monde. Hein. On a été tous confinés sur cette planète. Sauf dans quelques rares régions du monde entier, là, du monde là. Des îles isolées où il n'y avait pas plus de 1000 personnes qui, eux, ils n'ont pas connu de confinement. Non, sinon, dans tous les autres pays du monde entier où il y avait plus d'un million d'habitants, il y a eu des confinements. Restez à l'écoute. Après la petite pause publicitaire, je vous reviens avec l'invité Marc Dulceux.
Vous écoutez Escale 16-17 avec Fulgence Blas.
Oui, pour ceux qui nous prennent en marche, comme ça, c'est Escale 16-17, tous les lundis du lundi au, tous les jours du lundi au vendredi, bien sûr. Mon invité est déjà au bout du fil et il n'est pas avec mon studio, mais quand même, ça va se passer comme s'il était avec mon studio. Voilà, c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect. Bon, c'est pas son premier livre. Hein. Un ancien journaliste reconverti dans les affaires. Marc Dulceux, qui est l'auteur d'une dizaine de livres, dont des essais, des recueils, de nouvelles et des romans de science-fiction installés au Québec avec sa famille depuis 2010. Le Québécois d'adoption est un amoureux du livre et de la culture. Il va nous dire.
Ouais, vous avez tout bien résumé, là.
Voilà. Il va nous dire, c'était son passe-temps durant la pandémie, le confinement. Et le titre du livre, c'est « Journal d'un confiné », préfacé par Jules Duceppe et de Caroline Quachtan. Bonjour Marc Dulceux.
Bonjour, comment allez-vous? Merci de m'accueillir.
C'est moi qui vous dis merci de venir nous parler de...
Ah ben je vous en prie.
Mais c'est une brique quand même, plus de 400 pages.
Presque. Oui, on avait du temps.
Voilà.
On avait du temps pour s'en occuper, c'est sûr. Alors effectivement, quand on est tombé dans cette période-là,
oui.
Comme vous disiez tout à l'heure, moi j'ai été journaliste longtemps.
Oui.
Et en fait... Tout de suite, lorsque c'est arrivé, ben on l'a tous ressenti comme ça, je crois. C'était un événement rare, très particulier, qui se présentait pour la première fois dans notre génération.
Oui.
Cette pandémie, alors le journaliste s'est un petit peu réveillé en moi. Puis bon, la vérité, c'est que je m'ennuyais aussi. Hein. C'est vrai que les journées étaient longues, là, confinées quand même. Et je me suis dit, tiens, imagine par exemple, tu partirais dans un chalet, là, mettons, dans la Naudière ou les Laurentides ou peu importe, et puis tu tu regardes un petit peu et tu tombes par hasard sur un cahier et que ce cahier, finalement, tu découvres que c'est un père de famille au début du XXe siècle, pendant la grippe espagnole, qui a décidé de d'écrire un petit peu le quotidien de sa famille pendant cette catastrophe là.
Oui.
Bah, ce serait un trésor pour le patrimoine, je dirais, là, pour l'expérience vécue. Et puis, je pense que on s'en servirait dans les écoles pour, parce que ce serait une page d'histoire, finalement.
Oui.
Et c'est à partir de cette conviction que j'avais, que je me suis dit, ben, regarde, tu devrais faire la même chose, parce qu'un événement comme ça, c'est quand même un événement extrêmement rare. Et si un jour quelqu'un veut finalement en apprendre davantage en un seul morceau sans avoir à aller visiter 50 millions de sites internet,
oui.
Eh ben, tu vas pouvoir mettre tout là-dedans. Et en fait, la chose qui est venue, si vous me permettez, la chose qui est venue confirmer ça, c'est lorsque j'ai entendu François Legault dire, et là je le cite, on a une armée de 8,5 millions de personnes pour gagner cette bataille et on va la gagner.
Quand je l'ai lu, ça m'a fait sourire, Marc.
Ouais. Et vous savez, il termine en disant, les générations futures s'en rappelleront. Alors moi, je me dis, bah tiens, pour qu'elle s'en rappelle, il faut faire un bouquin.
Ouais.
Et donc, ce bouquin-là, il faut qu'il aille dans les écoles, il faut qu'on le montre, il faut que ça se sache pour apprendre comment on s'en est sorti, finalement.
Oui.
Si on peut dire aujourd'hui qu'on s'en est sorti, mais je crois que oui, là, sinon on est très très proche de la fin de cette histoire.
Oui.
Et sinon, pour être capable de dire, voilà, si ça se représente une autre fois, quelles sont les erreurs à éviter? Alors voilà un petit peu l'origine de ce livre-là.
Mmh.
Et puis effectivement, bon bah écoutez, à un moment donné, l'idée de faire préfacer par un politique et par quelqu'un du monde scientifique m'est venu.
Oui.
Puis j'ai été très très honoré quand Gilles Duceppe et puis Caroline Couache qu'on voit sans arrêt.
Oui, à la télé, un peu partout.
C'est devenu une célébrité. Mmh. Et en fait, de voir que ils ont accepté de lire les fameuses 400 et quelques pages, alors qu'il s'agissait juste d'un manuscrit d'un inconnu que j'étais pour eux, finalement. Et puis, me confirmer qu'ils feraient une préface, bon, ben, pour moi, c'était une reconnaissance du contenu, finalement, de la part de deux grandes élites au Québec.
Comment s'est passée l'approche? Comment vous avez pu les convaincre, même? Comment vous les avez approchés?
Ça a été extrêmement simple. Alors, pour Caroline Couache, finalement, j'avais trouvé son courriel par rapport à l'université où elle travaille.
Oui.
Donc, je lui ai écrit. Elle m'a répondu très rapidement.
Wow, okay.
Elle m'a dit oui, envoyez-le-moi. Et puis, je vais regarder ça. Elle l'a lu en, je pense, à peu près 8 ou 9 jours. Et puis, elle a finalement décidé. Elle m'a écrit. Puis, elle m'a dit OK, je vais le faire. Et puis Gilles Duceppe, lui, c'était vraiment toute une anecdote que je vous raconte là, parce que en fait, c'est quelqu'un que on l'admire, hein, c'est quand même quelqu'un de très spécial, Monsieur Duceppe.
Oui, oui.
Et puis, je contacte le Bloc québécois et on me dit, écoutez, le plus simple, c'est de contacter son fils qui est député lui aussi, puis il va vous mettre en contact avec son père. Donc je contacte le fils et puis effectivement. Je reçois un appel du Bloc qui me dit, bon ben, pourriez-vous nous envoyer le manuscrit en PDF? Monsieur Duceppe va le lire. Et là, on était genre jeudi, il était 3h30, 4h de l'après-midi. Puis je sais pas si vous savez, mais il faut une bonne douzaine d'heures, hein, pour lire un bouquin de 430 pages.
Ah oui, ah oui. Je l'ai pas lu en deux jours. Hein. Je l'ai pas lu.
Alors du coup, je lui envoie en milieu d'après-midi le jeudi. Le vendredi matin, mon téléphone sonne. Bonjour, c'est Gilles Duceppe. J'ai lu votre bouquin, je vais faire la préface. Ah, je me suis dit, mais vous avez déjà tout lu. Il m'a dit, oui, j'ai tout lu.
Ouais.
Alors du coup, je rappelle le Bloc et tout, puis le Bloc m'a dit, oui, monsieur Duceppe, il est comme ça, il remet jamais au lendemain ce qu'il peut faire le jour même, donc on n'est pas étonné qu'il l'ait déjà lu et puis qu'il accepte de le faire. Mmh. Puis d'ailleurs, le 24 septembre, on a fait un super lancement, puis Madame Couache était là, Gilles Duceppe était là, c'était vraiment très, très réussi.
La crème de la crème. Une scientifique, exact. Et un ex-politicien, ouais. Disons. Et moi, ouais. Ce qui m'a plu dans ce livre-là, j'aime tout. Bravo, merci à vous de nous faire revivre. Voilà, même si c'est des moments douloureux qu'on a vécu durant ces périodes de confinement, la manière vous décrivez toutes les scènes, ce qui se passe au Canada, à l'international et au Québec, je me suis dit, et puis l'ordre est comme ça chaque jour, c'est comme ça. Au Canada, ce qui se passait à l'international et au Québec.
Ouais.
Je me suis dit, bon, il pourrait aussi faire l'inverse au Québec, au Canada et à l'international.
Oh mon Dieu, c'est marrant que vous disiez ça, parce que figurez-vous qu'au départ, le manuscrit, c'était ça.
Ouais.
Et en fait, c'est l'éditeur qui m'a demandé de le faire dans l'autre sens.
Wow.
Et donc, en fait, quand je lui ai fourni le manuscrit, il m'a dit, écoute, c'est super, on va l'éditer, mais pourrais-tu l'écrire dans l'autre sens? Donc, il a fallu que je reprenne tout depuis le début, moi. Oh mon Dieu, j'étais pas content.
Il vous a fait travailler. Il s'appelle Sylvain Harvé.
En fait, vous savez, entre chaque paragraphe, on met des transitions finalement là.
Oui.
Donc du coup, moi, mes transitions, elles fonctionnaient plus. Donc il a fallu tout remanier. Là, bon, je l'ai fait parce que je m'étais promis. Tu sais, quand j'ai vu le jeu contribue là, qu'on demandait aux gens de venir aider et tout, moi malheureusement, sans entrer dans le détail, si vous voulez, j'ai des maladies chroniques, le diabète, mettons, puis d'autres, là, enfin, une autre en fait, je pouvais pas aller. Moi. Et en fait, je me suis dit, comment tu peux faire pour aider comme ça? Donc je me suis dit, je vais écrire le bouquin. Alors quand on m'a demandé, quand Sylvain, l'éditeur m'a dit, remanie-le pour le mettre dans l'autre sens finalement, je m'étais vraiment convaincu que c'était ça moi, ma mission. Personnel pour aider, pour contribuer, parce que je pouvais pas faire autre chose que ça, donc il n'était pas question pour moi de lâcher, alors que au début de la pandémie, je sais pas si vous vous rappelez, mais on voyait des gens dans les hôpitaux, là, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, travailler dans l'ignorance totale de ce que c'était que ce virus-là, au péril de leur vie, pour sauver celle des autres. Donc en fait, moi, je voulais leur rendre un hommage à ces gens-là parce qu'ils ont été extraordinaires. Là. Tu sais, quand on dit on ne naît pas héros, on le devient, ben c'est ça.
Oui.
Il y a des gens dans le domaine de la santé qui ont péri pendant cette période-là. C'est des pertes immenses. Et ces gens-là étaient des héros parce qu'en fait, ils ont risqué leur vie pour sauver celle des autres. Alors, moi, de mon côté, quand Sylvain m'a dit « change tout », là, pas « change pas tout », mais « change le sens », je ne me voyais pas abandonner parce que ces gens-là n'ont pas abandonné. Et puis,
Non, ces gens, ils ne nous ont pas laissé tomber de toutes les façons.
C'est ça.
Sinon, on allait tous passer, je ne sais pas, mais... Et beaucoup ont laissé leur peau aussi, ces soignants et ces soignantes, là.
C'est dramatique, mais c'est héroïque, en fait.
Comment ce livre est accueilli par vos pères?
Vous voulez dire mon entourage ou par les gens dont je parle dedans, les scientifiques et tout ça?
Les scientifiques, l'entourage d'abord et puis vos collègues auteurs, écrivains.
Ah ben par l'entourage, c'est toujours bien reçu parce que déjà, on a une couverture qui est magnifique, qui a été réalisée par un monsieur qui s'appelle Éric Robillard.
Oui.
C'est un monsieur qui est un professionnel du visuel, si je puis dire, parce que il fait beaucoup d'affiches de cinéma et puis de séries télévisées, tout ça. Donc déjà, il y a l'impact de la couverture qui est magnifique.
Non, c'est beau. On dirait le virus même qui est là, quoi.
Ouais, c'est ça, mais je trouve que la couleur bleue, en fait, elle atténue l'agressivité.
C'est ça.
Ça permet de voir un petit peu, parce que ce bouquin-là, dans le fond, c'est un journal qui reprend du début jusqu'à la fin, jour après jour, mais avec de la hauteur, parce que même si moi, je me suis pas amusé à réécrire, parce que je voulais garder à chaque jour ce qu'on apprenait au fur et à mesure, en fait, eh bien, maintenant qu'on en est sorti ou pratiquement, on peut prendre de la hauteur en le lisant. Donc une couverture qui était plus dans une couleur plus douce, finalement, c'était pour moi beaucoup mieux que le virus moche qu'on a vu pendant 2 ans et demi.
Ouais,
agressif et tout ça.
Oui.
Après, pour l'entourage, si vous voulez, les gens autour de moi, naturellement, ils aiment les bouquins lorsque j'en fais un nouveau. Alors tout le monde ne le lit pas, c'est sûr et certain, mais en fait, dans l'entourage, c'est comme ça. Après, il est bien juste de sortir. Hein. Donc en fait, c'est vrai que là, il y a eu pas mal de journalistes, y compris vous avez été super occupés avec les élections. Donc là, les élections sont terminées, je pense qu'on va commencer à en parler davantage.
C'est ça.
Mais je pense que ça va être bon. Et d'ailleurs, j'ai été appelé par... l'attaché de presse de François Legault il y a environ 3 semaines.
Oui.
Et j'attends un appel en fait pour rencontrer le Premier ministre, puisque naturellement on parle de lui dedans là, mais je pense qu'il a beaucoup aimé aussi le travail qui a été fait, donc je suis censé le rencontrer au mois d'octobre. C'est super quand même.
C'est super. Marc, celui qui va lire ce livre là, qui dit qu'il n'aime pas, c'est que vraiment il est à côté de quelque chose. Mais tous ces chiffres précis, les jours, comment est-ce que vous êtes rentré en possession de ces chiffres précis là?
Ben, en fait,
de chaque journée. Est-ce que vous passez vos temps devant chaque conférence de presse?
Oui. Mais souvenez-vous, on n'avait que ça à faire. Donc, en fait, moi, je me levais le matin, je regardais les informations. Ensuite, il y avait les deux conférences de presse. Donc, moi, je prenais des notes tout le long.
Wow.
Et en fait, ça me prenait quand même trois heures dans la première partie de la journée. Et en fin de journée, je retournais sur Internet pour visiter les sites de LCN, Radio-Canada, TVA, La Presse, Le Devoir et le Journal de Montréal pour aller voir s'il y avait des choses qui avaient encore évolué dans le courant de la journée. Mais en fait, ça a été 2500 heures de travail, un travail de fourmi. Hein.
2500 heures de travail.
Ouais. C'était réparti sur 2 ans. Puis aujourd'hui, je peux vous dire, et puis ça me fait rigoler, hein, mais je suis très très fier d'avoir fait ce boulot-là. Si j'avais su à l'époque, quand j'ai commencé, les heures, la quantité d'heures que je mettrais là-dedans, j'y aurais peut-être pensé. Hein. Parce que franchement, c'était un long travail. Je pense que c'est le de mes bouquins, c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Et puis, écoutez, c'est une réussite. Hein. Il est magnifique. Il est très beau. Et puis, en fait, moi, je vois cette pandémie comme une page d'histoire du Québec. Et pour moi, cette page d'histoire, je la raconte entièrement de sa première minute à la dernière dans ce bouquin-là. Donc, je suis quand même heureux d'être allé au bout.
Oui. Et comment il se porte le livre depuis son lancement?
C'est tout récent, puis comme vraiment le lancement a été magnifique, il y avait vraiment beaucoup de monde, là on était mettons 100, 120 là, donc c'était vraiment réussi, il y avait beaucoup de monde qui venait pour Gilles Duceppe et Caroline Couache aussi, là. Il y a eu Nima Machouf qui est passé, tiens aussi, on a eu Yves Giroux, le directeur parlementaire du budget du Canada, qui est venu également, et puis Monsieur Trépanier qui est le directeur de la santé publique au CIS de Laval, on avait quand même du beau monde, donc effectivement, là il y a des bouquins qui se sont vendus, mais je pense que il faut attendre là maintenant que le gouvernement soit mis en place, là, puis on aura plus de place auprès des journalistes pour faire parler du livre, effectivement, mais par contre, les journées sont quand même assez répandues, parce que d'ailleurs, regardez, vous et moi, on est en train d'en parler, et puis mon éditeur me disait qu'il avait reçu une vingtaine de demandes de services de presse, donc tout ça, c'est des entrevues qui vont venir au fil du temps. Après, pour moi, si vous voulez, mon idée depuis le début, puis je vous en parlais tout à l'heure, c'est d'aller, je ne sais pas comment je vais m'y prendre là, mais d'aller convaincre quelque part dans le gouvernement pour que ce livre-là rentre dans le programme scolaire. C'est ça que je veux faire.
Oui,
ça ne va pas être facile, mais je vais voir comment je peux m'y prendre. Mais c'était vraiment ça le but, puisque c'est une page de l'histoire nationale.
Et Marc, je ne pense pas que ça va être compliqué. Non, je ne pense pas. Et puis d'ailleurs, je peux voir ce livre-là en audio aussi, pour les gens qui...
Oui. Là, pour l'instant, il n'est pas en audio, il est en numérique.
Ah non, il vient de sortir.
En audio. Ouais.
Voilà, laissez les gens sentir l'odeur du papier d'abord.
Ouais.
Laissez les gens sentir l'odeur du papier d'abord et puis l'audio de l'enregistrement. Vous pouvez, négocier avec une maison d'enregistrement, pour pouvoir faire on en fait ici aussi à Canal M, hein, Vues et Voix.
Ouais.
Voilà.
Ouais.
Donc, au fait, je me suis dit, Marc, ouais, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que vous avez quitté vous avez arrêté le journalisme?
Parce qu'à un moment donné, ça correspondait un petit peu avec l'arrivée d'Internet. Là, quand je suis arrivé au Québec en 96, la première fois, j'étais journaliste à La Presse avec Nathalie Petrovski puis Miville Tremblay. Là, je suis resté quelques semaines là. Mmh. Et en fait, il y a Internet qui arrive et tout à coup, tout le monde devient journaliste. C'est-à-dire tout le monde a son blog, tout le monde a... D'un seul coup, tout le monde peut se mettre à écrire, à raconter des histoires.
Oui.
Bon, tout le monde ne sait pas écrire correctement, mais tout le monde avait la possibilité d'une tribune pour s'exprimer, alors sur tous les sujets possibles et imaginables. Et alors, à cette époque-là, quand je suis rentré en France, je me suis rendu compte que la place du journaliste avait beaucoup évolué et qu'en fait... c'était plus du tout évident de pouvoir vivre d'un emploi de journaliste. Et en fait, c'est ça qui m'a fait changer de boulot, finalement. Mais toutefois, quand je suis revenu au Québec en 2000, 2010.
En 2010, oui.
Ouais, c'est, bon, en fait, un peu plus tard, là, je me suis remis à écrire notamment les fameux romans de science-fiction dont vous parliez tout à l'heure.
Oui.
Et puis, oui, il y a quelque chose qui est reparti. Puis c'est vraiment la pandémie, c'est l'événement qui a fait que, j'ai eu cette intuition qu'il fallait que je le fasse. Puis aujourd'hui, quand je le regarde, le bouquin, je suis tellement content parce que j'ai mis tellement de temps là-dedans. J'ai eu un grain de folie, monsieur.
Ça se sent dans votre voix là. Ça se sent dans la voix quand vous parlez, Marc. Bah, sincèrement, je me suis dit waouh. Et puis une belle collaboration avec Sylvain Hervé, l'éditeur, même si vous avez fait changer l'ordre au lieu de.
C'est vrai qu'on est un bon binôme là.
On se
comprend bien. Et d'ailleurs, il a pas hésité à produire en un seul volume ma trilogie de science-fiction dans la version en anglais. Mmh. Donc en fait, on a des projets ensemble, puis on essaye de les mener à bon port. Donc en partageant un état d'esprit qui est vraiment très très positif et puis volontaire.
Oui, ça fortifie les liens quand on fait un beau travail comme ça ensemble d'ailleurs.
Ouais, vraiment, vraiment.
Oui. Alors un dernier mot à nos auditeurs avant de vous laisser, Marc, parce que moi le livre, je vous dis bravo, merci de m'avoir fait découvrir, revivre cette période de confinement, de Covid. Moi je l'appelle le Covid, je l'appelle le monstre, ce virus. Stratégie de réduction des risques sanitaires qui oblige sous peine de sanctions économiques ou pénales une population à rester dans son logement ou dans un lieu spécifique.
C'est pas rien quand même. Hein.
Ouais, c'est Et puis, je dis merci à vous parce que passer son temps comme ça au moment du confinement, en pleine pandémie, pour mettre à la disposition, à notre disposition, cette brique, pour qu'on on revive ça, même si la pandémie est terminée. Bon, entre.
Vous savez, ce qui était terrible, c'est que quand le confinement des 3 mois a été fini, on a passé 86 jours de confinement, on est quand même passé de 4 morts au Québec à 5222 en 86 jours. Mais après, si vous voulez, on a repris le travail. Donc en fait, mais moi, je ne pouvais pas arrêter le bouquin, je l'avais commencé. Moi, je pensais qu'il n'y aurait qu'une seule vague. Puis finalement, les vagues arrivaient, ce qui fait que. J'avais mon emploi habituel, là. Donc, toute la journée, je travaillais comme vous. Mais en plus, le soir, il fallait que je continue le bouquin et puis j'y passais les week-ends. Parce que quand on parle de 2500 heures, c'est étalé sur 2 ans. Donc, en fait, c'est vrai que j'ai accouché de quelque chose de magnifique, mais ça a été un accouchement difficile.
Alors, voilà, si vous avez une conjointe dans votre vie, je lui dis merci, c'est cette personne qui vous a permis, et puis les enfants aussi, si vous en avez, et qui vous ont permis de vous livrer à ça, parce que quand on fait ça comme ça, avoir un boulot à temps plein le 9 à 5 et le soir, s'enfermer dans la chambre, dans son bureau pour écrire, c'est que, voilà, si la famille n'a pas aidé, ça ne pouvait pas finir.
De toute façon, en général, l'entourage encourage là-dedans parce que c'est une mission que vous voulez mener. Et puis, si vous voulez, au-delà de l'histoire de la pandémie, c'est aussi l'histoire d'une famille québécoise pendant la pandémie.
C'est
pour ça qu'en fait, les gens, quand ils vont lire le bouquin, ils vont s'y retrouver, ils vont se dire « Ah tiens, je me rappelle de ce jour-là ».
Mais je me suis retrouvé, Marc. Celui qui va ouvrir ce livre-là, dès le début déjà, même dans les préfaces déjà, et on se retrouve.
Oui, absolument. On a vécu ça ensemble, la même chose, même si on était enfermés chez nous. Là.
Oui.
On a vécu ça, puis on est passé à travers.
Merci beaucoup, Marc Delceux. Journal d'un confiné, préfacé par Jules Dicep et de Caroline Coach-Tan. Et merci aussi à Sylvain, l'éditeur, Sylvain Harvey, avec qui vous allez continuer de travailler.
Oui, absolument.
Merci.
Un grand merci à vous de m'avoir reçu, puis je vous souhaite la meilleure des fins de journée. Là.
Merci à vous aussi. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, bon, avant de terminer l'émission, je vais laisser le micro maintenant à mon complice là-bas, la régie Mathieu Tessier, qui va nous parler.
C'est moi ça?
Ah oui, c'est toi ça, Mathieu. Tu vas nous parler de Diana Ross Dreams, un spectacle que tu es allé voir? Oui. Je ne sais pas.
Oui, excusez-moi, j'ai toussé. Voilà. Avant de commencer à parler, oui, je suis allé voir.
T'as le droit de tousser, Mathieu.
Vous êtes bien aimable, mais pas quand le micro est ouvert, par contre. Je suis allé voir au théâtre La Chapelle. Jeudi dernier, je suis allé voir Diana Ross Dream.
Oui.
C'est un spectacle de danse, de performance interdisciplinaire, on va appeler ça comme ça,
oui.
Créé par Aisha Sacha John. Elle racontait dans Le Devoir, il y a une variété de structures chorégraphiques. Dans certaines, le mouvement est très déterminé et dans d'autres, il est plus libre. S'il y a effectivement beaucoup d'improvisation sur scène, c'est un spectacle avec qui elle danse avec Devon Snell.
Devon Snell.
Ouais. C'est lui qui a créé les costumes aussi.
Ouais, okay.
Et c'est une artiste, poète, chorégraphe, et elle s'intéresse à la chorégraphie. Elle a eu en fait une formation de danse folklorique des Caraïbes, ainsi que des danses éthiopiennes et congolaises, ainsi que des techniques d'improvisation.
Tout un mélange, hein?
Et on retrouve tout ça durant le spectacle. Il y a beaucoup d'utilisation de microphone, il y a peu de musique pour un spectacle de danse.
Okay.
Et ce qui était super intéressant, c'est de les voir, les parties improvisées. On les voyait clairement que c'était improvisé parce que même eux se faisaient rire entre eux. On commence un mouvement, puis il y a beaucoup de miroirs. Et le concept du spectacle, si on veut, c'est que dans Diana Ross Dream, l'être ensemble noir est la condition pour la communauté. Puis les interprètes dansent ou sont en relation, puis leurs gestes sont motivés par l'énergie de la rencontre, ce qui est très flagrant quand on regarde le spectacle. Beaucoup d'improvisation et même de l'incertitude prolifique.
Okay.
J'ai beaucoup aimé.
Est-ce que c'était une soirée unique ou bien ça continue?
Non, il y a eu trois soirs.
Il y a eu trois soirs.
En fait, j'ai eu pas de la difficulté, j'ai eu de la misère à me placer pour en parler cette semaine. Mais je vais définitivement suivre sa carrière.
Là, l'opportunité s'est présentée.
Aisha, exact. Voilà. Je vais définitivement suivre la carrière de cette artiste,
oui.
Aisha Sacha Dream. Elle va peut-être partir en tournée avec son spectacle Diana Ross Dream, que j'ai beaucoup aimé.
Ouais, tout le monde. Est-ce qu'on a besoin de présenter encore Diana Ross? Grande artiste afro-américaine.
Non, on n'a pas besoin.
Voilà. On a la fin de l'émission comme ça, Mathieu?
Oui,
oui, oui. Avant de laisser partir la pièce qui est instrumentale, d'ailleurs, la dernière pièce musicale. Merci à toi. On se retrouve demain.
J'y serai.
Oh, oui, oui. On dit merci aussi à notre invité, Marc Delceux, qui est venu nous parler de son livre Journal d'un confiné, préfacé par Gilles Duceppe et de Caroline Quachtan aux éditions Sylvain Harvey. Et puis quoi encore? Nos fidèles auditeurs, je leur dis merci. Et je dis Catherine Bourderon qui fait toutes les recherches toute la semaine d'ailleurs. Et puis même si je ne la remercie pas tous les jours à l'émission, normalement c'est les vendredis que je la remercie. Normalement, je n'ai pas besoin de faire du tam-tam tout le temps pour ça. C'est vendredi. Mathieu, il faut que tu prennes un peu d'eau. Hein?
Oui.
Voilà, d'accord. Allez, prenez soin de vous. Merci de votre fidélité. Et on se retrouve. Mathieu sera avec moi encore demain. Je ne sais pas si... Il est allé voir une autre pièce de théâtre hier soir. Je pense bien que peut-être que je pourrais lui accorder 3-4 minutes. Là, s'il veut en parler. Disons, il n'est pas oublié d'en parler. Et s'il veut en parler, bon, il pourra en parler. Merci à toi encore une fois, Mathieu.
Ça fait plaisir.
Voilà, et puis on se retrouve demain sur les ondes de Canal M. Prenez soin de vos minutes. Voilà, et puis n'oubliez pas... Le destin, c'est un farceur. Sur ce, je vous dis ciao. Thank you. Et là, on écoute John Hudson, John W.W. Hudson, Ambition. Voilà, Ambition. Ambition, c'est tout. Instrumental, il n'y a pas de voix là-dedans. Là. Et Mathieu danse là-bas, à la régie.